应该是打高尔夫了。
Au revoir les enfants. À bientôt.
Au revoir mon père.
Au revoir mon père.
Au revoir mon père.
I love you, but you don't know what you're talking about.
I love you too.
Elle vous a trahi, et vous n'avez jamais compris pourquoi.
Comment savez-vous toutes ces choses?
Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission de cinéma sur Transistor. Aujourd'hui, notre pal passe son examen de baccalauréat de Christian Mingiu. Et pour partager ce moment de responsabilité avec moi, les yeux de 40 ans, bonjour à toi.
Bonjour Anastasia.
Il s'agit dans ce film de Roméo, médecin et père d'une jeune fille, Elisa. La seule obsession de Roméo est de sauver sa fille de la Roumanie. Si elle obtient une moyenne de 18 à son bac, elle pourra bénéficier d'une bourse qui lui permettra d'étudier en Angleterre. Mais l'adolescente plutôt douée est agressée dans un chantier près de la fac et a depuis du mal à utiliser sa main droite. Toutefois, Roméo est prêt à tout. En échange d'un foie tout neuf, un homme influent lui promet d'intervenir auprès d'un cadre peu recommandable qui pourra corrompre le correcteur des copies. Alors personnellement, je peux absolument dire que j'ai beaucoup aimé le film. Je ne sais pas si c'est le cas pour toi, mais j'aimerais bien apprendre ton avis par rapport au film, des premières réactions.
Oui, je suis assez d'accord avec toi. Je trouve que ce film est vraiment intéressant. Il montre quelque chose qu'on ne voit pas souvent à l'écran, je trouve, qui est ce que peut ressentir un père qui voit sa fille devenir indépendante. Et c'est une indépendance qui est peut-être un petit peu tragique, dans la mesure où elle s'acquiert d'abord par le viol. La fille se fait violer, littéralement, au début du film. Ensuite, elle doit traverser la séparation de ses parents et aussi, on la voit qu'il y a des difficultés avec ses examens, notamment, elle a du mal à passer le bac. Et on voit, en fait, le père, tout le ressenti du père à travers le film vis-à-vis de l'indépendance de sa fille. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est que, bien que on a l'impression que tous les événements que je viens de dire sont hyper important, c'est-à-dire le viol de la fille, on pourrait penser que le film va être centré autour de cette image, de cette scène, et bien en fait, c'est pas tout à fait ça, le film va être au contraire centré sur ce que peut ressentir le père à propos de tout ça.
Oui, je suis d'accord. En plus, moi je crois que c'est même plutôt une histoire sur le père en fait, que sur sa fille, parce que bah, du coup, tout de suite, on voit que le père est le personnage central, tout est centré sur lui. On a beaucoup de gros plans sur lui et on voit pas trop en fait sa fille. Et du coup, lui, c'est vraiment quelqu'un qui subit en fait tout ça. Et je crois que déjà, les titres, baccalauréat, il s'agit d'un examen, mais pas seulement d'un bac pour cette fille, mais d'un examen pour tous les personnages en fait, et surtout pour sa père, parce que c'est lui qui s'inquiète beaucoup plus que tous les personnages à côté de lui.
Oui, exactement. Hein. Le père doit passer une épreuve, plus ou moins. Il est confronté, en fait, à l'indépendance de sa fille. Il doit faire face à ça. Et pour faire face à ça, c'est un peu ce que tu dis. Enfin, il a plusieurs moyens d'y arriver. Il y a la façon honnête d'y arriver en acceptant, en fait, que sa fille devienne indépendante et en étant honnête avec cela, en laissant faire, ce qu'il parvient à faire finalement plutôt à la fin. Mais il y a l'autre manière qu'il aborde d'abord, c'est la triche. C'est-à-dire, et la triche ici, c'est se laisser corrompre et corrompre, c'est-à-dire participer au fonctionnement du système roumain qui est très largement corrompu. Et voilà, donc ça rejoint un peu l'idée de l'épreuve et de la triche à cette épreuve.
Oui, ça c'est super intéressant parce que moi, notamment, je me suis dit qu'en fait, oui, on est d'accord que c'est un système de corruption absolue, mais ce qui était super intéressant pour moi, c'est le système des dons, parce qu'en fait, on voit presque jamais de l'argent nettement comme ça, on voit des enveloppes voilà, que la femme dans des personnages transmet au docteur, à Roméo, mais après on voit pas vraiment l'argent. Par contre, on entend souvent le terme de don, je serai redevable, il est très serviable. Et c'est vraiment une histoire des services rendus. C'est un cercle des services et des dons entre cette communauté. Et ça m'a fait penser à des lois construites par la société elle-même à cause de la manque des lois strictement établies par le gouvernement. Et moi, je trouve que, bien sûr, c'est un système de corruption, mais moi, j'avais l'impression, même si ça peut être un peu scandaleux ce que je dis, mais pour moi, c'était un système super équilibré. Il n'y avait pas, pour moi, c'était pas méchant, et c'était vraiment un système d'aide et des services très équilibrés que je trouvais un peu même positif, je peux dire.
Je suis d'accord avec toi, c'est assez positif, hein. Puisque dans le film, il y a cet exemple de la fille, Elisa, qui essaie de passer ses examens après son agression, juste après son agression. Et le problème, c'est qu'elle a un bras cassé. Et à cause de son bras cassé, son bras dans le plâtre, le directeur fait mine de refuser à Elisa de passer les examens, puisque elle pourrait éventuellement cacher des antisèches dans son plâtre et tricher à l'examen. Et c'est finalement la corruption qui permet, son père qui essaie de soudoyer le directeur, qui permet d'accepter sa fille à l'examen, voire même d'aller un peu plus loin, c'est-à-dire que le père essaie de soudoyer les correcteurs pour que sa fille obtienne de meilleures notes qu'elle aurait pu avoir et qui aurait pu être baissée à cause de son agression et du fait qu'elle ne se sente pas bien pendant l'épreuve.
Ça reste très ambigu, je suis d'accord, parce que finalement, la corruption nous est présentée d'une manière positive, parce que les personnages dans ce film utilisent la corruption afin d'avoir du bien, en fait, pour d'autres gens, et c'est pas trop égoïste, c'est pas du tout égoïstique, en fait. Oui, là, je suis d'accord, et c'est pour ça que, en fait, j'ai pensé aussi à l'image sociale. Je connais absolument pas la société roumaine, par contre, j'étais assez convaincu par ce que j'ai vu dans le film. Et en tout cas, j'ai bien aimé les paroles du personnage principal, Roméo, qui dit que ici, il faut utiliser les armes d'ici. Et c'est en fait aussi, ça nous montre comment les gens essayent de survivre dans des conditions assez difficiles et compliquées. En plus, on a toujours ce souvenir caché, je dirais, parce qu'on ressent que Roméo, le personnage principal, a vécu une vie très complexe. Et c'est pour ça qu'il a tellement peur pour sa fille, pour qu'il ne répète pas son chemin, en fait. C'est pour ça qu'il veut absolument qu'elle parte, pour qu'elle puisse vivre une vie meilleure que la sienne. Et du coup, je crois qu'on a cette tension pendant tout le film. Et j'y ai réfléchi assez longtemps, parce qu'il y avait des indices, des cailloux jetés dans la fenêtre de l'appartement, dans le vitre de la voiture. Mais finalement, c'est pas l'essentiel, en fait. Il y a des choses qu'on peut pas expliquer, des choses comme ça. Et ça ressemble un peu à une quête policière, mais finalement, je crois que la tension est due au fait que son père a peur, et la tension se résout dès qu'il n'a plus peur pour sa fille.
Oui, c'est vrai, effectivement, il y a une tension qui est présente tout au long du film et qui se résout, on ne sait pas trop comment, puisque finalement, il n'y a rien de concret qui vient apporter un dénouement à tout ça. Il y a vraiment, c'est ce que tu dis, c'est la peur qui s'efface. Et de ce point de vue-là, je trouve que l'aspect cinématographique du film, les techniques cinématographiques employées, illustrent vraiment bien cette tension, la font ressortir vraiment au plus haut point. Par exemple, quand le personnage principal essaie de poursuivre la personne qui a jeté la pierre à travers la vitre et qui l'a cassée, il essaie de poursuivre cet inconnu. La caméra le suit un petit peu comme si celui qui portait la caméra marchait avec lui, et la caméra fait des oscillations, on se sent vraiment en train de courir avec cet homme qui est un peu balourd finalement, et on se sent derrière, on se sent vraiment à sa place, quoi. On entend aussi le bruit du train qui est très fort, qui est très présent dans les enceintes, et à de nombreuses reprises, de nombreuses scènes, les effets de caméra et les effets sonores vraiment appuient cette tension.
Ah là, je suis d'accord, absolument. Et après, je voulais juste ajouter que j'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai jamais vu ces acteurs. Déjà, le héros principal, Roméo, je l'ai beaucoup aimé, je lui sympathise beaucoup, je le comprends beaucoup, ces démons dans sa tête. Et je trouve que tous les acteurs ont très bien interprété leur rôle. Et j'aimerais vraiment saluer ce travail. Bah, il a déjà été remarqué par le Festival de Cannes. Personnellement, j'ai beaucoup aimé.
Oui, c'est vrai, les acteurs jouent vraiment très très bien. Le personnage principal, j'ai beaucoup aimé. Et je trouve aussi que celle qui joue la mère de Elisa a un jeu d'acteur particulièrement bon, puisqu'elle arrive très bien à jouer la mère un peu absente. Par moments, on ne sait pas qui elle est. On a l'impression qu'elle est peut-être un peu, finalement, ancienne alcoolique. Et je trouve que son jeu, de ce point de vue-là, est très bien fait.
On ne comprend jamais ce qu'il est arrivé avec elle, en fait. Elle est un personnage un peu mystérieux, qu'on ne comprend pas très bien, c'est vrai, oui. Et bien du coup, je suis persuadée qu'on peut absolument vous conseiller d'aller voir ce film très intéressant et captivant dans les salles de cinéma de Lyon. Et pour que vous soyez prêts pour la rentrée du cinéma, quelques conseils de sortie prochaine. Alors, l'Institut Lumière nous propose à la rentrée la rétrospective du cinéaste David Fincher. Dès le 3 janvier, nous allons la possibilité de revoir ou voir ses films les plus fameux, parmi lesquels The Fight Club, The Game, Seven, et aussi ses films plus récents, par exemple L'étrange histoire de Benjamin Button, The Social Network et bien d'autres. Venez vous amuser à la salle Fourmi aussi, qui nous propose deux séances d'un grand classique italien, Mario Monicelli, L'arme de joie, le 5 et le 8 janvier. Il s'agit dans ce film de Giola Fabricotti, surnommée Tortorella, qui s'échine dans des petits rôles en rêvant de devenir une diva et qui refuse pour le réveillon de fin d'année la compagnie d'Umberto Pennazzuto pour sa capacité à provoquer de faux accidents et à escorquer les assurances. Fortino a promis à son ami Lelo en pickpocket de l'aider pendant la nuit de la Saint-Sylvestre pour tenter quelques coups. Les trois personnages se rencontrent par hasard et Tortorella, qui a été abandonnée par les amis avec qui elle devait réveillonner, oblige les deux hommes à l'accompagner à un bal masqué. Voilà tout, d'étoile plan les yeux, c'est fini pour aujourd'hui. Je tiens à remercier Corentin pour avoir partagé ses idées avec nous et à la fois prochaine sur Transistor.